Bon, bah, merci vraiment très fortement à tous les trois. Peut-être vous laisser d'abord réagir aux interventions les uns des autres, dans la mesure où elles entrent en écho, et puis très rapidement me taire, parce qu'il nous reste une vingtaine de minutes, et comme ça, il y a eu quand même plein d'échos, de passerelles, d'autant que voilà, l'intervention de Julien avait une dimension rétrospective aussi, et a explicité un certain nombre d'échos avec des interventions des uns ou des autres. Je pense que le mieux, c'est que les uns et les autres interviennent en réaction à ces interventions.
On est tous très fatigués.
Ouais. Ce serait
Juste
le moment du pot, là.
pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au questionnement éthique, ça c'est vrai que ça intervient tout de suite à ces moments de délégation d'action. C'est quelque chose qui a été exploré aussi avec la pièce de Roger Bernat, Domini Public. Qui était où justement les spectateurs et les spectatrices étaient audio-guidés à travers là, le dispositif, c'était des ondes courtes, ce n'était pas le téléphone, mais c'est quelque chose qu'on pourrait refaire aujourd'hui avec les dispositifs de conférence téléphonique qui sont beaucoup plus accessibles et qui permettent de mettre ça en place beaucoup plus simplement.
Je vais juste dire qu'effectivement, donc moi j'ai arrêté d'écrire mon texte fin 2020 parce qu'en 2021, je voulais être dans l'action et donc d'être vraiment dans trouver des solutions et proposer des choses concrètes. La question aujourd'hui pour moi se pose de l'après, même si on n'est pas encore tout à fait sorti. J'entends des responsables de communication, par exemple, qui me disent le jour où on recommence la vie à la normale, on pourra plus faire tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, etc., parce qu'on devra recommencer nos pratiques de promotion au lieu de simplement communiquer ce qu'on est et de nourrir de contenu. Et c'est la même chose pour les formes artistiques qui ont été créées. Quelle sera leur vie par après? On sait très bien que le streaming live a connu une forte croissance et puis c'est tassé parce que les gens en avaient marre. Moi, c'est la question ouverte de me dire qu'est-ce qui va rester de tout ce qu'on a pu créer pendant cette période? Parce qu'il y a eu des bonnes choses et des moins bonnes choses, mais il y a quand même une évolution des compétences, que ce soit numériques ou sociales, des gens qui ont évolué. Donc c'est intéressant de continuer à rester en éveil, en tout cas de ma part, par rapport à ça, et que je vous invite à le faire aussi. C'est finalement, qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça? Et est-ce qu'il y aura justement une hybridation des pratiques, c'est-à-dire que les deux, enfin, moi je pense que les deux vont coexister, mais sous quelle forme, c'est à voir, en tout cas.
Je ne sais pas si je peux me permettre d'intervenir, mais hier, donc, j'ai présenté le spectacle Humaton, qui est un variant de Vilain Canard. Et pour moi, il est très clair aujourd'hui, spectacle Humaton n'aurait jamais existé sans la pandémie. Mais pour moi, il est très clair aujourd'hui que le prochain spectacle ne se fera pas sans une version spectacle Humaton. C'est une petite forme qui nous permet d'entrer dans le travail, de le présenter différemment. Et vraiment pour moi, c'est une chose essentielle. Je ne sais même pas comment je pourrais faire pour produire un grand spectacle sans cette petite parenthèse qui est le spectacle Humaton. Et sinon, j'avais une question pour Julien. Je ne sais pas si je peux y aller. Ah, je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main, zut.
Bon, tant que vous avez la parole, allez-y.
C'était juste pour en savoir un petit peu plus sur l'organisation du théâtre en appartement audio guidé. Comment ça s'organise une chose comme ça? Qui sont les spectateurs? C'est-à-dire c'est uniquement dans le cadre d'un foyer? Enfin voilà, comment on recrute les spectateurs et les acteurs audio guidés?
Ça dépend vraiment ça dépend vraiment de la manière dont le. Alors, je l'ai fait. Soit au début, c'était moi personnellement qui ai appelé une amie et qui lui ai proposé parce que je savais qu'elle était confinée avec 8 personnes. La deuxième fois, ça s'est fait avec Espace Doc à Paris parce qu'ils avaient une radio pendant l'été 2020, Galoche Online. Et donc, je l'avais proposé à la radio pour que des gens écoutant la radio puissent téléperformer devant leurs proches. Après, ce qui est très compliqué, c'est que pour faire entendre ce que véritablement est la téléperformance, il faut quand même avoir un minimum de temps d'attention d'une personne pour que la personne comprenne qu'on va lui donner des informations, etc. Donc, ce que je me suis aperçu en passant sur Galoche Online, c'est que les gens n'étaient pas du tout… s'ils n'avaient pas su avant ce qu'il fallait faire, ça ne pouvait pas s'improviser comme ça. Ils ne pouvaient pas rentrer dans l'action directement. Donc, ça demande de la médiation, de la communication avant pour faire entendre ça, ce qui a été fait avec la Casa Transit à Cluj-Napoca en Roumanie, où là, ça a été annoncé. On a communiqué dessus. J'avais mis en place une réponse automatique Gmail, par exemple, quand les gens écrivaient à Daniel Julilair, qui était l'expert en téléspiritisme, ils recevaient automatiquement une réponse Gmail qui leur disait, c'était en anglais parce que c'était avec la Roumanie, je savais que tu me contacterais, tu savais que je savais, je ne peux pas te répondre tout de suite, je suis occupée, je te rappelle tout de suite après, mais je voulais que tu saches que je savais, etc. Donc là aussi, je m'étais amusé d'aller voir dans tout ce qu'il y avait d'existant et que je pouvais utiliser. Et donc, je me disais, je fais jouer avec moi le truc de réponse automatique Gmail. Mais en effet, c'est des formes où il y a un travail de communication et de médiation avant qui est assez important pour qu'on se mette d'accord sur comment ça va se passer. Mais de la même manière dont, là, tu me vois évoqué par Marion Boudier, où il y avait même un mode d'emploi vidéo qui expliquait pendant plusieurs minutes comment ça allait se passer. Et en général, c'est quelque chose qui est évoqué, toutes ces formes, ça demande de communiquer beaucoup.
Alors, il y a Nathalie qui voulait prendre la parole et ensuite Isabelle.
Oui, je voulais à la fois rebondir sur quelque chose que vient de dire Jérôme, mais qui fait écho et qui me trotte dans la tête depuis hier. Des réflexions du côté de la création, des créateurs et des créatrices, et aussi des réflexions du côté public, disons, pour simplifier, même si ce n'est pas aussi schématique et binaire. Et je pensais que peut-être une partie des publics avait aussi apprécié une forme de liberté ou d'accessibilité qui n'existait pas ou moins. Avant, on a évoqué dans certaines interventions aussi de nouveaux codes comportementaux autorisés pour les publics qui ne sont pas ceux de la salle. Et on l'a, par exemple, on l'a vécu aussi avec Élisène, c'est-à-dire ce qu'on a fait là, c'est des choses qu'en salle, il faut vraiment qu'on insiste pour nous dire qu'on a le droit de le faire, parce qu'on va, voilà. Et donc ça, je me demandais dans quelle mesure les publics allaient docilement, pour ceux qui en avaient l'habitude, retourner dans les salles comme si de rien n'était, on ferme la parenthèse. Si les publics qui se sont formés, créés, inventés, qui n'étaient pas des publics allant dans les salles, auraient envie de poursuivre. Et puis, il y a Gaëlle qui a proposé déjà, en tout cas, sa réponse du côté de la création. Il y a une forme, le spectacle Maton qui est né pendant cette période particulière, mais je ne me vois plus, ne pas faire coexister aussi cette forme-là. C'est une réflexion que je pose, mais qui peut amener les remarques et les réponses des uns, des unes et des autres. Parce que ça m'intéressait, ce double regard sur les deux aspects de la création.
Si je peux juste rebondir, en fait, par rapport à cette réflexion-là, ce que nous, on a fait avec la compagnie de cirque dont je m'occupe, c'est de publier, quand on a commencé à reprendre le chemin des festivals de rue, je vais juste vous le partager, vous voyez, on a réalisé un petit guide du spectateur post-Covid. Et donc, qui rappelait les règles de « attention, n'oubliez pas, en festival de rue, ça ne se passe pas comme devant votre écran Zoom ». Et du coup, on avait fait plusieurs vignettes pour justement expliquer tout ce qu'on peut faire et quels sont les codes. Donc, effectivement, parce qu'on avait rebondi sur cette histoire de « les gens n'ont plus l'habitude et en même temps, on a envie qu'ils reviennent vers nous ».
Oui, enfin, je voulais juste dire que par rapport aux questions que posait Jérôme Ramacker, par rapport effectivement à qu'est-ce que ça va devenir tout ça, je pense qu'en effet, la question c'est vraiment est-ce que ça va permettre un changement dans la politique culturelle. Moi, ce que j'ai quand même vécu, c'est que nous avec les Escape Théâtres, on a eu un énorme engouement au moment évidemment des confinements puisqu'il n'y avait pas trop le choix. Et puis après, on s'est dit, oh ben mince, alors là, c'est en train de... Et puis maintenant, ça remonte, parce que, pas parce qu'on est simplement... Mais parce que, puisqu'on a le droit d'aller au théâtre, hein, je veux dire, les théâtres sont, non pas pleins, mais sont ouverts. Mais parce que, ben parce que les théâtres sont quand même vides pour beaucoup, dans la mesure où précisément, les gens ont peur d'y aller, ou ont perdu l'habitude d'y aller, et puis qu'il y avait déjà avant plein de gens qui n'y allaient pas. Donc je pense que ça devrait... Et que c'est là-dessus qu'on doit se mobiliser. Alors en tout cas, nous on le fait au niveau du syndicat national des metteurs en scène. On fait partie Julien aussi. C'est-à-dire de réfléchir et de voir comment reposer la problématique d'une politique culturelle qui finalement reste sur des acquis très très lointains et qui ne fonctionne plus. Donc voilà, moi c'est là-dessus que je pense. Après, qu'est-ce qui va rester exactement? Mais je pense qu'on a innover dans des formes qui correspondent aussi à une évolution de la société, et qu'en tant que tel, ça ne veut pas dire que les théâtres vont fermer, qu'on ne va plus jouer en salle, mais comme le dit très bien Gaël Dauphin, on ne peut plus imaginer de ne faire que ça. C'est-à-dire qu'il faut véritablement qu'on imagine à chaque fois un geste artistique qui traverse, je dirais, qui va de la salle à la rue, à l'espace public, aux appartements, au marché, au téléphone, aux ordinateurs, et inversement, de la même façon, enfin des allers-retours permanents entre l'espace public, les gens qui sont quand même très repliés chez eux et repliés aussi dans des communautés. Et nous, ce qu'on peut, et aussi avec le problème des codes, hein, parce que ça aussi, c'est une chose qu'il faut aborder, c'est-à-dire qu'il y a des codes qui se distordent beaucoup. Moi, qu'enseigne à la fac, je peux vous dire que par moment, je ne parle pas le même langage que mes étudiants, hein, et je pense que pour tous ceux qui ont cette expérience, très souvent, on se dit, mais on est en train de, où les références ne sont plus les mêmes. Donc, tout ça, ça se travaille aussi, je pense, dans ce rapport aux nouveaux médias, enfin, aux nouveaux médiums, ou à des choses comme ça.
Oui, pour rebondir sur cette idée qu'avançait Nathalie sur le fait qu'il y a quand même des usages particulièrement appréciés ou des usages même simplement possibles grâce à ces différentes formes. C'est vrai que au bout d'un moment, je me suis très vite dit, mais en fait, au-delà des contraintes de la crise sanitaire, et l'idée, elle a déjà été évoquée aussi, que ces formes, pour certaines, proposent une forme d'accessibilité pour les publics dits empêchés, éloignés, etc. Et c'est vrai que quand les théâtres ont rouvert et que d'un coup, il y a toute une offre culturelle qui s'est arrêtée parce que les artistes retournaient dans les théâtres, c'est bien normal, dans des espaces où ils étaient pour la plupart du temps rémunérés quand ils ne l'étaient pas, quand ils étaient en train de bidouiller ou d'expérimenter avec des formes sur le téléphone ou Zoom, etc., mis à part bien sûr des compagnies qui l'ont fait de manière professionnelle et déclarée. Du coup, moi, j'ai trouvé ça un petit peu violent parce que finalement, il y avait tout un public qui nous avait tenu compagnie, nous, en tant qu'artistes, au moment où on avait besoin d'avoir un public et que finalement, on leur refermait la porte. Mais je pense qu'il y a peut-être de ce côté-là des choses qui vont subsister. Et notamment, c'est ce qu'avait évoqué Marie Ayotte, qui travaille avec des publics, justement, en situation de handicap ou avec des contraintes qui font que on ne peut pas aller vers eux avec le théâtre traditionnel et qui ouvrent en même temps à des artistes qui ne peuvent pas aller vers le théâtre traditionnel. Donc ça, je pense qu'il y a une piste là. Sunga Kim, c'est vrai qu'elle a évoqué ça de manière très positive sur la biodiversité qu'avait mis sous la lumière cette crise sanitaire. Je pense qu'il y a aussi quelque chose à laquelle il faut prêter attention, c'est tous les effets d'aubaine. C'est-à-dire qu'il y a eu des effets d'aubaine pour des démarches complètement à la marge, pas visibles habituellement, qui d'un coup ont été mises en lumière parce qu'elles se trouvaient correspondre aux contraintes posées par la crise sanitaire et que donc elles étaient possibles, donc elles ont été mises en avant. Mais il y a aussi pendant tout ce temps toute l'industrie numérique qui a également énormément gagné de temps et de moyens sur l'équipement de lieux culturels en captation en équipement pour le live stream, de compétences des équipes, etc. Et qu'il il s'agira de peut-être faire attention à ce que le live stream ou les kits numériques ne se substituent pas à une partie des usages. Ça ne remplace pas, mais ça grignote. Et donc, de voir comment est-ce qu'on peut continuer à militer, j'allais dire, pour cette biodiversité de notre écosystème, de ne pas aller vers une spotifyisation du spectacle vivant à travers sa numérisation, la numérisation des pratiques et tout ça. Voilà. Donc, il y a à la fois des choses en lesquelles je crois et qui peuvent être très positives et qui donnent de l'espoir, et en même temps, il y a quand même un œil à regarder sur les écueils possibles.
En plus, de mon côté, la source est tarie, ne comptez pas sur moi pour inventer une question.
Peut-être qu'on peut, à ce moment-là, on peut conclure, Nathalie.
C'était une belle façon de conclure, en plus, en évoquant les batailles à venir.
Oui, c'est assez le cas. Bon, c'est vrai que ça a été dense et riche, et sans doute que des tas de choses vont nous venir aussi dans les jours à venir, et peut-être être réactivées avec les podcasts et les PDF hein, pour ben voilà pour les personnes qui acceptent de partager les PDF. Bon, alors, tant que j'ai rallumé mon micro, donc je vous remercie à nouveau toutes et tous voilà d'avoir accepter, enfin voilà, d'avoir proposé quelque chose initialement et de vous être adapté avec nous, encore une fois, aux situations. Bon, même si voilà, on a l'habitude de rebondir et de s'adapter. Enfin, on est devenu une souplesse à peu près, presque à toute épreuve. Il ne faudrait pas trop insister quand même. Et voilà, ça a été extrêmement nourrissant. En tout cas, moi, ça m'a donné beaucoup à penser. Pour les périodes à venir, et comme je l'ai dit beaucoup, enfin moi je suis historienne, je suis sur des champs qui ont été évoqués dans certaines interventions. Je vois Armelle à l'écran, notamment par Armelle qui a fait ce lien aussi, mais pas seulement. Et comme je l'ai dit, je trouvais très intéressant qu'on pense à avant la crise, c'était dans le titre, le pendant bien sûr, l'adaptation, mais aussi l'après. Ce que Julien venait de dire, mais qui a été abordé aussi par plusieurs personnes, ce que je trouve important, puisque la crise, on ne l'a pas choisie, on l'a subie et on fait avec, c'est qu'est-ce que ça peut apporter du côté, encore une fois, de la création, mais aussi du côté des publics. Et de tout ça, qu'est-ce qu'on peut ressortir d'extrêmement positif, motivant et stimulant. Alors, ces deux journées, ben, je trouve qu'elles sont positives, stimulantes et innovantes. Et je vous remercie à nouveau. Je ferme mon micro pour laisser Julien parler.
Merci beaucoup, Nathalie Coutelet, pour cette conclusion. Je vous remercie également, voilà, toutes et tous, pour vos contributions passionnantes. Juste faire un lien avec la suite. Donc, ces journées d'études, elles sont en lien avec le programme Avoir lieu, qui est porté par La Marge Heureuse. Nos prochaines actions, une semaine de laboratoire qui aura lieu du 24 au 29 janvier à Clermont-Ferrand. L'idée, c'est de rassembler à la fois des artistes et techniciens, techniciennes professionnels rémunérés par La Marge Heureuse pour travailler en laboratoire, sur 6 jours, avec des personnes issues d'équipes médiation, communication de structures culturelles, parce qu'en effet, il y a tous les outils du distanciel qui sont communs aux équipes médiation, communication. La frontière entre communication, médiation, c'est vrai, elle s'effrite, on en a parlé, et elle s'effrite aussi avec médiation et création. Enfin, toutes ces frontières sont très, très poreuses à travers cette distanciation. Et à leur côté aussi, donc ce sont des groupes tripartites, à leur côté aussi des étudiants, doctorants, doctorantes, enseignants, enseignantes d'université qui voudraient y participer pour suivre ces recherches, même partiellement, pour apporter un regard, et y participer aussi jusqu'aux restitutions qui ont lieu le samedi. Donc, ces labos, donc, il y a du 25 au 29 janvier à Clermont-Ferrand et puis du 28 février au 5 mars à Anigra, le lieu de l'autre, donc à Arcueil, et puis à Paris avec la Générale Nord-Est qui nous accueillera également. À la suite de ça, l'idée, c'est aussi de mettre en place une plateforme pour mettre en avant. Donc, c'est pour ça que je me passionne autant pour la typologie. C'est qu'à un moment, si on fait une plateforme, il s'agit de donner des filtres pour essayer de trouver voilà, de l'information quand on recherche une forme de spectacle vivant qui utilise par exemple la radio et la vitrine ou qui utilise le drive-in plus des spectateurs et spectatrices en bulle plus voilà, je ne sais quoi. Donc c'est ça l'idée de cette typologie, c'est pour arriver à ça, pour du coup dans un geste militant faire connaître ces formes, non seulement pour l'institution, pour qu'elles soient soutenues, pour les structures culturelles qui pourraient les programmer, mais aussi pour les équipes artistiques et techniques, pour qu'elles s'en emparent. Et donc, c'est un des derniers objectifs donc, de la Marge Heureuse, c'est de créer une communauté de personnes qui vont échanger des informations, peut-être même des équipements, des astuces sur la manière dont on va dévier l'utilisation de tel outil existant ou bricoler ceci ou cela. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très claire, je n'ai plus de cerveau moi non plus. Et donc, je crois que... voilà. Et je remercie tout le monde. Merci aussi Giuseppe Bourriguel et qui nous a accompagnés, notamment dans l'idée de faire en présentiel, qui finalement n'aura pas pu se faire, mais voilà, qui était là aussi pour nous soutenir. Merci à toutes et à tous, et je vous souhaite une très bonne soirée. Et peut-être nous aurons l'occasion de nous retrouver dans des publics Zoom ou par téléphone sur des conférences téléphoniques, que sais-je, mais peut-être encore mieux en salle.
Merci beaucoup.
Bon, merci beaucoup.
Merci à toi, Julien.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir, merci.
Merci.
Merci.